J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grostet et Rémi Pascal sur Radio B.
Salut Thomas.
Salut Rémi, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air dans ton assiette?
Je suis triste, Thomas.
Ouais, c'est à cause du printemps, ça. Il y a toujours une atmosphère poétique, la renaissance de la nature, les papillons s'envolent. C'est beau, mais ça marque la fin de l'hiver et
non, mais ça n'a rien à voir.
Ah, tu t'es rendu compte que ton gâteau au chocolat était dégueu et que personne n'ose le te dire.
Bah non. Quoi, c'est vrai? Il est dégueu?
Enfin, c'est la mort du chat de ta voisine qui te rend triste.
Ah non, c'est pire que ça, c'est pire que ça.
Tu te rends compte que cette intro n'est pas aussi drôle que tu l'imaginais.
Oh Thomas, mais non, c'est bientôt la fin de Plat de Résilience. Il reste plus que 4 épisodes, le dernier chapitre.
Ouais, mais on commence le chapitre dédié aux solutions. Comment construire un système alimentaire résilient? Ça va plaire aux gens, ça, c'est du concret.
Ouais, t'as raison.
On va parler droits de douane.
Ah ouais, ça va être bien.
Agroécologie.
Oh, ça va être très bien même.
On va parler prix plancher.
Oh là là, ça y est, je suis chaud là.
Mais oui, ça va être génial.
Mais t'as raison, ça va être le meilleur chapitre de toute notre histoire, Thomas. Et j'avais un petit coup de mou, tu m'as remonté le moral. Non mais tu vas voir, dans 5 ans, on parlera résilience alimentaire dans les programmes scolaires, au lycée, non même au collège, non encore mieux, en primaire. Il faut quand même qu'ils apprennent tôt le sujet, les petits écoliers. Et puis j'ai même une super idée. Tu sais quoi? Ça va être encore plus fort. L'an prochain, au Festival de Cannes, ce sera un film sur la résilience alimentaire qui va gagner. Il s'appellera « Rien ne va plus dans nos rayons ». Non, mieux, « Salade, tomate, pétrole ». Ah, ça va plaire à Quentin Dupieux, ça. Tiens, voir. Et dans 6 mois, Radio B, boum, première radio française, grâce à notre émission, podcast le plus écouté de France.
Rémi, tu t'emballes, là, tu t'emballes.
Mais non, faut voir loin, Thomas, faut voir loin. Bon, sans plus attendre, chers auditrices et auditeurs, nous allons voir aujourd'hui comment relocaliser notre système alimentaire.
Bon, on va parler de résilience alimentaire dans ce podcast. Mais j'entends beaucoup, là, dans les médias, parler de sécurité ou de souveraineté alimentaire. C'est plus très clair, là. C'est plus très clair pour moi, Rémi, là.
Bah, c'est l'heure de faire notre liste au Père Noël, Thomas. En premier, notre système alimentaire doit assurer notre sécurité alimentaire. Ça signifie qu'il doit permettre à la population d'avoir accès à une nourriture en quantité et en qualité suffisante toute l'année. Secondo, notre système alimentaire doit assurer notre souveraineté. Ça veut dire qu'on ne doit pas trop dépendre des pays étrangers pour se nourrir. Et troisièmement, notre système alimentaire doit être résilient. Ça veut dire qu'il assure à la fois notre sécurité, notre souveraineté alimentaire, tout en étant capable d'absorber des chocs climatiques, des chocs sanitaires ou géopolitiques.
Ouais. Quoi qu'il arrive, notre système alimentaire doit nourrir et donner accès à toute la population à des produits de bonne qualité en quantité suffisante, quoi qu'il arrive. Bon, pour ça, il faut relocaliser notre système alimentaire. Mais ça veut dire quoi, Rémi?
Ben, ça veut dire se nourrir avec des produits qui viennent le plus possible d'à côté de chez soi, de ton département, de France ou à la limite d'Europe.
Ouais, enfin, on va pas pouvoir tout relocaliser.
Évidemment que non, il faut relocaliser en priorité les productions que l'on importe beaucoup, car on n'en produit pas assez pour satisfaire à nos besoins. On parle de production stratégique. Et au niveau européen, il s'agit des huiles, des fruits, des légumes ou encore des protéines végétales.
Oui, donc faut d'abord inciter l'agriculture à en produire plus.
Mais pour ça, on peut subventionner plus que la normale ces cultures. Une agricultrice qui veut produire du soja ou des pêches, par exemple, ben, elle aura des aides européennes incitatrices pour cultiver ses productions.
Mais il faut aussi qu'on lui achète ses produits. Il faut donc inciter finalement aussi les filières à l'agroalimentaire.
Bien sûr, les entreprises de l'agroalimentaire peuvent aussi bénéficier d'aides pour investir dans la valorisation de ces cultures stratégiques. Ce qui compte vraiment, c'est qu'il y a un marché pour ces produits. Dit autrement, il faut que ces produits se vendent et que les gens les achètent. Pour cela, on peut limiter ou taxer l'entrée de produits étrangers.
L'agricultrice pourra vendre ses pêches sur le marché français sans se voir concurrencée par des pêches chinoises ou indiennes.
Et on reparlera de mesures possibles de protectionnisme à mettre en place pour faciliter la vente de produits français ou européen dans un prochain épisode.
Il y a plein de cultures à développer, je crois. Hein. Tu parlais dans une précédente chronique des patates douces. Il y a les myrtilles, les kiwis, les avocats, les aubergines, les pastèques, les oignons, les tomates, les mandarines,
les concombres. Mais il y en a plein, Thomas, il y en a plein. On importe d'importantes quantités de ces produits chaque année en Europe, alors qu'il s'agit de fruits et légumes qui poussent très bien chez nous. C'est donc un potentiel économique pour le monde agricole et plus de souveraineté pour l'Europe si on se met à les cultiver.
Ouais, je comprends. Mais t'as parlé aussi là de protéines végétales.
Bah on importe, concernant les protéines végétales, surtout du tourteau de soja. C'est une préparation faite à partir de la graine de soja qui va servir à l'alimentation des vaches et des volailles. C'est un concentré de protéines pour les animaux, en gros. L'Europe en importe énormément, surtout du Brésil. On en a importé près de 30 millions de tonnes en 2022 à l'échelle européenne et 3 millions à l'échelle française.
Ouais, en plus je crois que c'est pour faire du soja que dans les pays de l'Amérique du Sud, dans le Brésil, il y a la déforestation de l'Amazonie.
Et exactement, et ça coûte cher à l'Europe d'importer autant de tourteaux, et à la fois ça nous rend dépendants bah, notamment du Brésil. Mais relocaliser la production de protéines végétales ne va pas suffire à améliorer notre résilience, il va aussi falloir en consommer moins.
Ouais, ça veut dire que les fermes doivent être autonomes en protéines, donc qu'elles produisent les protéines végétales qu'elles vont donner à manger à leurs animaux.
Exactement. Les élevages bovins peuvent nourrir leurs animaux, surtout avec de l'herbe, à la place du soja. Parce que l'herbe est naturellement équilibrée en glucides et en protéines, et elle remplace très bien le soja. Et l'avantage, c'est que l'herbe, donc les prairies, poussent partout, notamment dans les zones difficiles, comme en montagne, mais aussi dans les terres à faible potentiel.
Ouais, un agriculteur peut avoir un peu de prairie chez lui, dans ses terres qui produisent peu, par exemple.
Exactement. Pour les volailles, par contre, ou pour l'élevage porcin, il n'y a pas d'autre solution que de diminuer le nombre d'animaux pour diminuer le besoin en protéines végétales.
Pourquoi ? Je comprends pas bien.
Bah, quand tu regardes sous l'angle de la résilience alimentaire, les vaches qui sont nourries à l'herbe consomment moins de surface agricole, utilisable pour nourrir des humains, que les volailles et les cochons. Pourquoi ? Parce que pour nourrir les poules et les cochons, on utilise des céréales, qui peuvent être utilisées, donc ces céréales, pour nourrir des humains. Alors que pour nourrir des vaches nourries à l'herbe, eh ben on va leur donner quoi ? On va leur donner à manger de l'herbe, qui, elle, peut pousser sur des terres où l'on ne fait pas de nourriture pour l'humain. L'herbe, elle pousse dans les terres, on l'a dit, peu fertiles.
Ouais, donc l'avantage des cochons et des volailles, c'est qu'ils peuvent être utilisés pour, par exemple, lutter contre le gaspillage alimentaire, car ils mangent un peu de tout. Mais une des pistes, c'est quand même donc de limiter ce nombre de volailles et de cochons, car ils consomment trop de protéines végétales et rentrent en compétition avec l'alimentation humaine.
Exactement, ils consomment trop de terres agricoles qui peuvent nous servir à nourrir les humains. On gardera les élevages de vaches qui, eux, peuvent plus facilement se passer de soja en mangeant de l'herbe qui passe partout, hein, qui pousse partout, même dans les sols peu fertiles. Ça marche aussi pour les autres herbivores, comme les brebis et les chèvres, qui sont des animaux qui rendent d'ailleurs beaucoup de services à l'agriculture.
Mais alors, comment on fait pour relocaliser des cultures qui ne poussent pas en Europe, le café, le cacao ou même l'huile de palme? On n'a pas le bon climat pour les cultiver, excepté peut-être dans certains territoires d'outre-mer, mais en plus, qui ne peuvent pas subvenir à tous nos besoins.
Bah, t'aurais aussi pu citer le cas du riz, hein, qu'on produit un peu en Camargue, mais pas du tout assez pour notre consommation, et encore moins à l'échelle européenne. Donc pour tous ces produits, si nous voulons augmenter notre résilience, nous devons diminuer notre consommation. Alors il ne s'agit pas d'arrêter du jour au lendemain de manger du riz ou du cacao, ça c'est complètement ridicule. Et c'est toujours bien de commercer avec d'autres pays, car quand on commerce avec un pays, par exemple la Thaïlande pour acheter du riz, ou l'Indonésie pour acheter de l'huile de palme, ben, on est moins enclin à se faire la guerre. Par contre, on peut substituer l'huile de palme dans nos gâteaux industriels par d'autres huiles qu'on peut cultiver chez nous. Ça permettra de moins en importer.
Ouais, ce que tu dis marche aussi pour les produits animaux. Si on diminue un peu notre consommation de produits animaux, on diminue notre besoin d'importation.
Et on augmente notre résilience.
Bon, je veux bien qu'on relocalise la production de légumes. Par exemple, où j'habite, dans le Revermont, à deux pas de Bourg-en-Bresse, on en manque. Mais les maraîchers ne trouvent pas de terre pour s'installer. La production de comté est rentable et n'incite pas les éleveurs à vendre des surfaces pour d'autres productions.
Et pourtant, en plus de relocaliser les cultures stratégiques, il faut qu'on diversifie nos productions. Certaines régions comme la Bretagne, ou à côté de chez toi, la zone comté, sont des régions très spécialisées. Ces régions sont donc très fragiles d'un point de vue alimentaire, car elles doivent importer tout ce qu'elles consomment, puisqu'elles produisent que du cochon, du lait ou du comté.
Ouais, mais on en parlait dans un précédent podcast, en fait. Il faut déspécialiser ces régions en diversifiant les productions.
On continuera à faire du comté dans le Jura, mais un peu moins. Par contre, le Jura sera plus résilient. Il supportera mieux de futures crises alimentaires comme un Covid 2.0.
Ouais, ça tombe bien parce qu'en diversifiant les productions agricoles, on limite en plus l'utilisation des pesticides, d'engrais, on stocke plus de carbone et on améliore la qualité de l'eau. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, l'INRAE, dans un rapport publié en décembre 2023.
Ben concrètement, si un céréalier qui ne produisait traditionnellement que du blé, de l'orge et du colza, donc des céréales, d'un coup il se met à diversifier ses cultures, il va introduire des protéines végétales, il va se mettre à cultiver entre son orge, son blé, son colza, des protéines végétales, et il va pouvoir associer par exemple du blé avec du trèfle, associer deux cultures. Et ben il va diversifier ses cultures, qui vont être en meilleure santé, donc elles vont moins tomber malade, ce qui lui permet hein, de moins utiliser de pesticides. Et les plantes qu'on va introduire, comme le pois, ou le trèfle, ou le soja, bah, c'est des plantes qui fertilisent les autres, donc il utilisera moins d'engrais.
Ouais, un écosystème en bonne santé et plus résilient. Mais comment on diversifie l'élevage ?
Alors on va plutôt répartir l'élevage sur le territoire pour éviter qu'il y ait toutes les vaches et les cochons en Bretagne, par exemple. Ça va prendre du temps, mais on a une opportunité incroyable devant nous pour le faire. Peu de gens le disent, mais le renouvellement de générations agricoles bah, est une opportunité.
Mais pourquoi c'est une opportunité ?
C'est une opportunité parce que si tu imagines 10 éleveurs qui partent à la retraite en Bretagne, région où il y a trop de vaches, alors qu'il n'y en a pas assez dans d'autres régions. Par contre, la Bretagne, il faudrait qu'elle produise plus de fruits, de céréales, d'autres choses. Eh bien, tu vas pouvoir installer un arboriculteur, 2 céréaliers et 6 éleveurs, au lieu d'installer de nouveau 10 éleveurs. On aura profité du renouvellement de génération pour améliorer la résilience du territoire.
Mais comment tu fais si tu es éleveur et que tu viens d'investir 3 millions d'euros dans un nouveau bâtiment d'élevage de porc en Bretagne et qu'il faut moins produire de porc du coup ?
Ben, n'allons pas trop vite, ces transformations vont prendre du temps et il faut que la charge de ces transformations soit supportée par l'Union européenne et pas par les agriculteurs, c'est très important. Concrètement, ça veut dire que l'Europe rachète le bâtiment d'élevage de porc si l'éleveur accepte de diversifier sa production. C'est ce qu'on appelle les actifs échus. Il pourra aussi toucher des subventions pour adapter sa ferme à produire d'autres cultures.
Ouais, je vois. Mais je m'oppose pas à ce que tu dis, hein, mais si on relocalise et qu'on n'a pas les moyens de transformer les produits sur place, ça sert à rien. Regarde la filière des pâtes en France. On produit largement assez de blé dur et de farine de blé dur pour nos besoins, mais on exporte quasi tout en Italie pour la fabrication, car on n'a même plus les usines de pâtes en France.
Mais c'est ça la la désindustrialisation, Thomas. Les territoires, la puissance publique et les entreprises peuvent financer la création d'unités de transformation locale. Ça permettra de transformer les produits de base localement et avoir de nouveau des pâtes fabriquées en France. Ça veut dire concrètement avoir des moulins pour faire de la farine, des presses pour de l'huile, des trieurs pour vendre des graines comme la lentille ou le pois chiche par exemple.
Ouais, ça revient à raccourcir les filières des produits alimentaires de base.
Plus les territoires seront autonomes pour se nourrir, plus les pays et l'Europe seront résilients et moins dépendants des importations.
Ouais, ce n'est pas simple à mettre en place car il y a beaucoup de concurrence et ça coûte cher de construire des appareils de transformation alimentaire.
Bah, ça va demander un investissement important et des mesures pour rendre tout ça accessible aux consommateurs. Mais on verra ça dans un prochain épisode.
Bon, si je résume, Rémi. Pour relocaliser notre alimentation et diminuer notre dépendance aux importations étrangères, nous devons inciter les fermes à produire plus de fruits, légumes, huiles et protéines végétales. On peut aussi faire évoluer notre consommation pour moins consommer ce qu'on importe, surtout pour les produits facilement remplaçables comme l'huile de palme par exemple.
C'est ça, on peut également inciter grâce aux subventions européennes la diversification des cultures dans les fermes et créer de nouvelles filières agroalimentaires, tout en veillant par des mesures de protectionnisme à protéger ces nouveaux marchés émergents.
Et on peut également raccourcir nos filières pour éviter de faire venir du blé de l'autre bout du pays en installant des unités de transformation dans les territoires. En premier lieu, pour les produits de base comme farine, pâtes, légumes secs, viande ou produits laitiers.
Nous ne l'avons pas abordé ou très peu, mais lutter plus efficacement contre le gaspillage alimentaire est aussi impératif. Moins on jette, moins on a besoin de produire.
Et ouais, et en France, on jette, je crois, quand même 20% de la nourriture qui est produite. C'est énorme, ça représente énormément de surface agricole qui pourrait être utilisée pour compenser de possibles pertes de rendement à cause du réchauffement climatique ou autre.
Relocaliser et diversifier les cultures, raccourcir nos filières et lutter contre le gaspillage alimentaire, voilà les premières choses à mettre en place pour construire une agriculture et une alimentation résiliente.
Chères auditrices et auditeurs, nous espérons que cette chronique vous a plu. Vous la retrouverez sur le site de Radio B. Vous y retrouverez également les sources qui nous ont aidés à écrire cet épisode.
Thomas, j'ai une autre idée pour le film sur la résilience alimentaire. Résilience Fiction, par Tarantino. Ça a super bien marché, ça.
Faut que tu t'arrêtes là, Rémi. C'est la fin de chronique.
Non. Où les bronzés font de la résilience.
Bon, en attendant que Rémi se calme, on se retrouve le mois prochain.
Requiem for diversification des cultures.
À bientôt, c'était Thomas Grossetête.
Et Rémi Pascal sur Radio B.
J'aime beaucoup les pommes, c'est un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grossetête et Rémi Pascal sur Radio B.